Nous continuons donc notre cours, on avance. Normalement, en deux fois, on aura terminé. Donc avant Pâques, on aura fini de commenter la messe en entier. On va voir aujourd'hui du pater à la communion, des moments très importants, très significatifs aussi de la messe, avec quelques petites questions polémiques. On parlera, si on a le temps à la fin, de la communion dans la main. Alors, commençons par le Pater, le Notre Père. Donc, nous sommes à la fin du canon et le prêtre s'apprête à réciter ce qu'on appelle l'oraison dominicale aussi, la prière du Seigneur, Dominicus le Seigneur, Dominus le Seigneur. Le Pater est la prière chrétienne par excellence. Elle a été composée par le Christ, hein, c'est la seule prière qui nous a été donnée par Jésus lui-même. C'est la prière des baptisés par excellence, la prière des enfants de Dieu, de ceux qui peuvent appeler Dieu notre Père. Et pour la petite histoire, autrefois, le mercredi de la quatrième semaine de carême, soit mercredi dernier, les catéchumènes qui allaient être baptisés à Pâques venaient à l'église et il y avait une cérémonie de la tradition, à savoir de la transmission de trois choses, les évangiles, le symbole des apôtres et le pater. On les lisait et on les commentait devant eux. Et pour bien comprendre cette cérémonie, il faut savoir que pendant des siècles, ni le symbole des apôtres, c'est-à-dire le credo, ni le pater n'étaient écrits. Ils étaient transmis uniquement par tradition orale pour éviter la profanation. Et donc, un non-baptisé, un non-initié, pouvait très bien ne jamais avoir entendu la prière du Notre Père avant cette cérémonie grandiose dans laquelle on lui transmet le droit de la prier aussi. C'est d'ailleurs pour cela que dans la liturgie traditionnelle, pour les mariages par exemple, pour les funérailles aussi, ou dans la bénédiction des maisons, ou différents rites ou sacramentaux, quand il y a un pater, le prêtre le récite à voix basse, en silence. C'est l'idée de cette antique tradition de garder un certain secret sur le pater réservé uniquement aux baptisés, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Le pater, je ne vais pas vous le commenter ici, mais en gros, il résume tout ce qu'on peut demander à Dieu avec sept demandes qui suivent un mouvement similaire à celui du canon qu'on avait vu la dernière fois. On a d'abord trois demandes. Les trois premières demandes qui s'adressent à Dieu et qui sont pour la glorification de Dieu ou l'action de grâce des choses de Dieu, donc qui regardent Dieu, on s'occupe d'abord de lui avant de s'occuper de nous, comme dans le canon, vous vous souvenez, on a dit c'est d'abord pour la gloire de Dieu et ensuite c'est pour le salut des hommes. Donc d'abord la gloire de Dieu, pendant trois demandes, et ensuite quatre demandes descendantes, si vous voulez, de demandes de grâce pour nous, pour les hommes, avec. Au milieu de ces sept demandes, la demande centrale, qui est la demande du pain, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et qui se réfère à l'Eucharistie. Et c'est pour ça que le canon, le pater notamment, a été placé au milieu de la messe, parce qu'il est une préparation à l'Eucharistie. Il est là pour attiser notre désir de communier. Donnez-nous le pain dont nous avons besoin, le pain quotidien. Et il y a aussi la demande qui suit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et qui se veut aussi une préparation à la communion. L'idée, on demande d'être purifié de nos péchés avant de recevoir la Sainte Communion. Et ça fait référence à une parole importante de l'Évangile en Matthieu 5, 23, vous l'avez peut-être. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, dans l'idée antique, c'est lorsque tu vas offrir au temple, Jésus il parle aux Juifs pour cela, mais ça s'adresse à nous lorsque vous allez à la messe, tout simplement, que vous allez présenter votre offrande à l'autel. Si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite tu pourras venir présenter ton offrande. Donc cette formule. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Elle est centrale dans l'économie du sacrifice de la messe pour observer cette demande du Christ de nous réconcilier d'abord avec notre frère avant d'offrir le saint sacrifice. Et on reverra ce thème-là juste avant la communion. Je voudrais juste m'arrêter sur l'introduction qui ouvre le pater. Le prêtre dit à voix haute, éclairé par le commandement du Sauveur et formé par l'enseignement d'un Dieu, nous osons dire. Et cette phrase, nous osons, on ose dire notre Père, elle a un sens très important. C'est une formule magnifique qu'on passe trop souvent sous silence, auquel on ne fait pas attention, qui nous montre que le Pater, le Notre Père, est une prière d'une rare audace. Il y a une audace réelle à dire à Dieu Notre Père. Et l'idée est vraiment de nous introduire dans la sacralité, le respect pour cette prière. En effet, comment est-ce qu'on va oser dire à Dieu qu'il est Notre Père? C'est très important parce que nous, le Pater, on le dit tous les jours, on le dit comme une prière commune, et on fait peut-être plus attention au sens même de ces mots. On appelle Dieu, la divinité, la transcendante divinité, on l'appelle Notre Père. Quel païen a osé jamais appeler ces dieux leur Père? C'est le signe d'une... C'est-à-dire qu'on est leur enfant. C'est le signe d'une intimité avec la divinité, d'une relation de Père à enfant qui, en soi, si on a bien compris qui était Dieu, est inimaginable. C'est pour ça d'ailleurs que Aristote pensait qu'il ne pouvait pas y avoir d'amitié entre Dieu et les hommes, et donc pas de charité, puisque Dieu, bah, c'est transcendant, et que nous, on est des créatures toutes petites et en dessous. Une telle inégalité entre nous et Dieu fait qu'il ne peut pas y avoir de relation d'amour, encore moins de relation filiale. Dieu est le tout autre, le transcendant, le lointain, et voilà qu'avec l'évangile, avec le message du Christ, Dieu devient notre Père. Et il y a une audace extraordinaire à oser appeler Dieu notre Père. Et si nous osons appeler Dieu notre Père, c'est bien parce que le Christ nous a demandé de le faire. Quand vous priez, dites notre Père. Et c'est fort de ce commandement du Seigneur, sans ce commandement on n'oserait jamais dire une telle chose, fort de ce commandement du Sauveur, que nous osons dire notre Père. C'est pourquoi, vous l'avez saisi, que le Pater est la prière des baptisés uniquement. Aucun non-baptisé ne peut en vérité appeler Dieu son Père. Ah, c'est très important. La paternité divine, c'est le pendant de l'adoption filiale qui se passe au moment du baptême. C'est par le baptême que nous devenons enfants de Dieu surnaturel, co-héritier du Christ, frère de Jésus, et que nous pouvons alors appeler Dieu notre Père. Ça, c'est l'enseignement essentiel du prologue de Saint Jean qui nous dit « Quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est pas rien d'être nommé enfant de Dieu et de pouvoir appeler Dieu notre Père. À ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. Et ça, c'est des thèmes qui sont fréquents, qu'on voit souvent, qu'on apprend aux petits-enfants au caté. Vous êtes enfant de Dieu, ça fait quoi le baptême? On est enfant de Dieu. Mais je ne sais pas si on se rend compte de l'audace que c'est de dire une chose pareille. Il y a cette histoire très belle d'une religieuse qui va voir son confesseur et qui lui dit « Mon père, monsieur l'abbé, je n'arrive pas à prier. » Et le père lui demande alors « Mais qu'est-ce que vous dites dans vos prières ?» Et la religieuse dit, « Eh bien, je commence et que je dis « Notre Père ». Et lorsque j'ai dit ces deux mots, je me mets à pleurer et parce que c'est trop émouvant et je n'arrive pas à continuer mon « Notre Père ». Est-ce que nous, lorsqu'on dit le Pater, quand on dit « Notre Père » dans le chapelet ou le matin quand on se lève, est-ce que nous, ça nous émeut autant que cette petite religieuse qui était sans doute plus sainte, bien plus sainte que nous, hein, qu'il faut retrouver cette grandeur d'appeler Dieu notre Père, oui, il y a une vraie audace à le faire. Voilà ce que nous apprend l'introduction que le prêtre lit. Alors le Pater était récité autrefois, juste vers la fin de la messe, après la fraction, juste avant la communion. Et c'est Saint Grégoire le Grand qui va faire déplacer le Pater pour le mettre juste après le canon, un peu comme une continuité du canon, pour le mettre à une place plus centrale dans la messe. Alors, question polémique. Faut-il ou non réciter le Pater? Faut-il que les fidèles récitent le Pater avec le prêtre dans la liturgie traditionnelle? En Occident, la tradition de ne pas chanter le Pater est extrêmement ancienne. Elle vient de Grégoire le Grand lui-même, celui qui a déplacé le Pater pour être proche du canon, nous informe au VIe siècle donc que la prière du Seigneur, le pater, chez les Grecs est dite par tout le peuple, dans toute la liturgie orientale, le peuple l'a dit en entier, chez nous, chez les Latins, par le prêtre seul. Saint Augustin également nous dit, dans l'Église, on récite chaque jour à l'autel de Dieu cette oraison dominicale que les fidèles écoutent. Donc, il y a une certaine tradition à ne pas chanter le pater dans la liturgie latine. Et dans la messe de 62, c'est également écrit dans les rubriques. À part ça, mais je vais essayer de vous dire que ce n'est pas rien, ça, à part ça, je n'ai aucun argument théologique pour vous dire s'il faut chanter le pater ou non. Hein, les orientaux le font tous, et les latins, on ne devrait pas le faire, on ne le fait pas, normalement. Certains vont dire que le prêtre le récite seul parce qu'il représente le Christ qu'il enseigne à ses apôtres. Bon, ça se tient, mais ce n'est pas un absolu en soi. Hein. Le Christ nous l'a enseigné à nous tous, on pourrait tous le dire. D'autres vont dire, c'est peut-être plus fort, que le pater a été déplacé par Saint Grégoire le Grand, mis près du canon, et comme une continuation du canon, puisque le prêtre dit le canon tout seul, il dit aussi le pater tout seul. Ça se défend un peu plus. Mais en réalité, il n'y a aucun argument fondamental pour dire il faut chanter le pater ou il ne faut pas chanter le pater. En tout cas, un argument théologique fort. Non, pas que l'argument dans la messe traditionnelle, c'est le rite, tout simplement. C'est le rite. C'est la tradition qui nous fournit cette habitude de ne pas chanter le pater, et le rite ne nous appartient pas. Et si, chez les tradis, entre guillemets, et moi le premier, on est pour que le pater ne soit pas chanté par les fidèles, mais simplement chanté par le prêtre, c'est moins pour un argument théologique de profondeur que pour dire « je n'ai pas le pouvoir de changer le rite ». Si moi, prêtre, je commence à trafiquer mon rite et à dire « ah ben ça, je pense que ça, c'est plus sympa qu'on le chante tous ensemble, donc on le chante tous ensemble », c'est là que c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas un bon esprit dans la liturgie. De se dire bah, ça je vais changer, ça je prends, ça je garde. Non, ou je fabrique ma liturgie, ce qui était quand même un peu le fer de lance de la réforme. On a un peu construit la liturgie comme on le sentait, sans faire trop attention à la grande tradition de l'Église qui, depuis voilà, le VIe siècle, ne le chante pas. Donc cette tradition, par elle-même, a un poids. Elle a un poids de transmission, elle a un poids d'autorité que moi, je ne vais pas m'amuser à changer comme cela. Donc, je dirais, c'est ça l'argument pour lequel on ne chante pas le pater, c'est que nous recevons la liturgie telle qu'elle est, et que nous la recevons ainsi, et le respect de la rubrique, c'est ce qui est en rouge dans le missel, que le prêtre ne lit pas, mais ce qui dit ce que le prêtre doit faire. Le respect de la rubrique est un élément très important de l'attitude humble du prêtre qui reçoit la liturgie. Seul, c'est pas à lui de transformer sa messe. Bon. Après, on vous dira qu'il y a des indultes dans certaines régions. On peut rentrer dans le détail, mais en gros, l'idée, elle est là, si vous l'avez senti. Bien, ensuite, je vous ai mis les feuilles pour expliquer le texte en dessous, là, dans le fil de la description. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'embolisme, c'est-à-dire une prière dans laquelle le prêtre développe la dernière prière du pater. Celle libéranos a malo, délivrez-nous du mal, et le prêtre développe cette idée, délivrez-nous du mal, Seigneur, de tout mot passé, présent et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu toujours vierge, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul et André, et de tous les saints, daignez nous accorder la paix, vous voyez, encore une mention de la paix, on va y revenir plusieurs fois, la paix en notre temps, qu'avec le soutien de votre miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de troubles. Une belle prière qui demande à la fois la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix du cœur, et aussi la paix extérieure, délivrée des troubles. La paix intérieure, c'est délivrée du péché, et la paix extérieure, délivrée des troubles. Et voilà, la paix, compris comme étant un fruit de l'Eucharistie, un fruit de la messe. Normalement, quand on sort de la messe, on est en paix. Et la messe nous a apaisés, réellement. Elle nous délivre des tensions intérieures du péché, et elle appelle à l'unité de l'Église et du monde par l'Eucharistie. C'est tous des thèmes très importants pour la fin de la messe. Ensuite, on a deux actions importantes, extrêmement anciennes, que sont la fraction et la commixtion. Voyons d'abord la fraction. Le prêtre prend l'hostie entre ses mains et au-dessus de la patène, il la coupe en deux, il la fractionne en deux. Il pose la moitié droite sur la patène, il ne garde que la gauche, qu'il met au-dessus du calice, ça se fait au-dessus du calice, la fraction, qu'il met au-dessus du calice, et il fractionne un petit bout de la partie gauche. Il garde le petit bout dans sa main droite et il pose le bout de la main gauche sur la patène. Il se retrouve donc avec une parcelle, une petite parcelle de l'hostie, l'hostie ayant été coupée en trois. Et en faisant cela, il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit. Et ensuite, avec le petit bout, il va faire trois signes de croix sur le calice, en disant « La paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Encore une fois, la paix qui est demandée pour dans ces rites. Alors, quelle est l'idée de la fraction ? On verra la commixtion ensuite. La fraction, d'abord, ça nous vient directement de l'Évangile. C'est le Christ qui bénit le pain, le rompit et le donna à ses apôtres en disant. Et donc, le prêtre, comme le Christ, rompt le pain à son image. Au début même, dans la liturgie, on appelait la messe la fraction du pain. Et c'est à la fraction du pain que les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus. Donc c'est un souvenir de ce que le Christ a fait. À ça s'ajoute une idée pratique, ancienne. C'est, vous vous souvenez, les fidèles apportaient le pain à la messe. Des pains, des vrais pains, qui étaient pris sur des plateaux, montés à l'autel et consacrés pour devenir l'Eucharistie. Et ces pains, eh bien, pour donner la communion à fidèles, il fallait tous les rompre en des portions plus petites pour pouvoir communier avec. Et donc il y avait ce rite de la fraction de tous les pains qui avait lieu. Depuis que, à partir du Xe siècle, on utilise des petites hosties, déjà prédécoupées, si vous voulez, déjà à taille pour la communion, il n'y a plus besoin de découper les pains pour la communion, mais on a gardé ce rituel de la fraction quand même, par souvenir du Christ. Et puis il y a aussi une idée symbolique très forte, qui là est plus spirituelle, c'est l'image de ce corps du Christ déchiré, brisé par nos péchés. Et tout ce thème-là, du cœur brisé, il faut relire Isaïe 53, on est dans le temps de la Passion, c'est vraiment les textes à relire, on en parlera quand on parlera de l'agonie vendredi, de ce corps qui a été broyé, brisé par le péché des hommes, eh bien, dans la fraction du pain, on essaye de nous souvenir, c'est ce à quoi on peut penser quand on voit le prêtre fractionner l'hostie, Jésus a vraiment été brisé à cause de nous. Il a souffert un déchirement intérieur et dans ses membres à cause de nous. Faites bien attention, c'est symbolique uniquement, puisque le corps de Jésus, dans l'hostie, ne subit rien. Il est glorieux au ciel, et dans l'hostie, il n'est pas vraiment coupé en deux, c'est symbolique, puisqu'il est présent entièrement dans les trois parcelles, finalement, de l'hostie. Et puis une dernière raison, dans le rite romain, l'hostie était coupée en trois. Une partie servait à la communion du prêtre, l'autre partie était conservée pour la communion des malades, et enfin la dernière partie servait à la commixtion. À la commixtion. Alors cette commixtion, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où le prêtre, après avoir fait trois signes de croix avec la petite parcelle, la laisse tomber dans le calice et récite cette prière que le mélange sacramentel, ec commixio, c'est ça le mélange, commixio, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir, nous serve pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rite ? L'idée originale, au début, c'est qu'on utilisait, on l'a dit, du pain fermenté pour le Saint-Sacrifice de la messe. Et parfois, on utilisait des pains fermentés consacrés avant, à la messe d'avant, pour la communion du lendemain. Et ce pain fermenté, comme tout le pain, il durcissait. Et donc, pour la communion, on le ramollissait en le trempant dans le sang, dans le vin, dans le sang du Christ. C'est ce qu'on retrouve dans la communion sous les deux espèces, par intinction, vous savez, chez les orientaux, où on trempe le pain dans le vin, et ensuite on donne le corps dans le sang, vous m'avez compris, et ensuite on donne cette communion aux fidèles. Ça, c'est le symbole, on va dire, historique, mais le symbole spirituel qui est extrêmement important, de ce rassemblement du corps et du sang du Christ avant la communion, c'est d'exprimer la résurrection de Jésus. Hein. De rassembler le sang et le corps nous rappelle qu'on va communier, c'est le signe qui nous rappelle qu'on va communier au Dieu vivant. Dieu n'est pas mort dans l'hostie, Dieu est glorieux dans l'hostie, on avait parlé de tout ça, hein. Faire attention, Dieu est vivant, et c'est à ce corps vivant que nous communions. Et donc pour le manifester, on rassemble le corps et le sang étant l'image ancienne de l'âme et de la vie dans l'Ancien Testament, pour manifester que le Christ auquel nous communions, c'est le Christ corps, sang, âme et divinité tout à la fois. Donc il y a vraiment cette idée de la place de la résurrection du Christ dans le sacrifice et dans la communion, dont on avait parlé la dernière fois, c'est fondamental. On se centre beaucoup à la messe sur la passion, la mort de Jésus, on a raison, puisque c'est ça le sacrifice de Jésus, mais ce sacrifice n'a aucun sens si Jésus n'est pas ressuscité pour nous donner la vie à son tour. C'est l'agrément du sacrifice, on avait dit, la résurrection. Et donc du coup, oui, on se rappelle de la résurrection, et on se rappelle qu'on communie au corps ressuscité et non pas au corps mort de Jésus en unifiant le corps et le sang. Voilà. Suit ensuite la prière de l'Agnus Dei, trois fois, à nos dieux qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous, et pour la dernière fois, donnez-nous la paix. Hein, vous voyez, c'est la troisième ou quatrième mention de la paix depuis la fin du canon. L'Agneau de Dieu est, vous le savez bien, le symbole christique par excellence. On le trouve dès le sacrifice d'Abraham, hein, Isaac qui demande à son père « Où trouverons-nous l'agneau pour le sacrifice ?» et Abraham qui répond « Dieu y pourvoira », ce qui est un écho à l'agneau de Dieu qui est le Christ. On le trouve, cet agneau de Dieu, dans le sacrifice de la Pâque, hein, l'agneau, le sang de l'agneau, qui couvre le linteau des portes et qui protège les Hébreux durant ce sacrifice de la Pâque, ce même sang qui va être versé par le Christ. Hein, le rapport entre l'agneau et le Christ, il est partout dans les évangiles. Il y a quelques indices chez saint Jean qui sont magnifiques. Le fait, par exemple, que le Christ n'a pas eu les os brisés. Saint Jean dit, on ne lui a pas brisé les os, vous savez, on a percé d'une lance Jésus, mais on ne l'a pas brisé les os. Et saint Jean dit, bah, c'est pour accomplir la prophétie, aucun de ces os ne sera brisé. Mais de qui on parle? On parle de l'agneau pascal. L'agneau pascal, dans le rite pascal, l'agneau, on ne devait briser aucun de ses os. Et bien, ce lien entre l'agneau et le Christ, il est formidable. On retrouve l'agneau dans Isaïe, Isaïe 53, donc dans la grande prophétie du serviteur souffrant dont on parlera vendredi. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Et là, on a un écho avec saint Jean, encore une fois, dans sa passion, où il nous dit que « et Jésus tachebat » et Jésus se taisait, hein, écho direct à cet agneau silencieux qui est conduit à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche. Voilà. On a ensuite saint Jean-Baptiste, « voici l'agneau de Dieu », hein, qui réalise les prophéties. Et puis, on a toute l'Apocalypse, dans laquelle est décrit à de multiples reprises cet agneau au ciel, égorgé et debout, hein, le grand paradoxe de l'Apocalypse, il est à la fois égorgé et debout, il est à la fois mort et ressuscité, à la fois martyrisé, persécuté et triomphant et glorieux, qui se tient à côté de l'autel. Donc l'agneau de Dieu, c'est un thème central pour comprendre la passion du Christ, pour comprendre comment toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau, de l'Apocalypse jusqu'à, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'agneau, et un thème central pour dire que toutes les évangiles, toute la Bible parle du Christ, et du Christ crucifié. Voilà. Donc, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Voilà. Donnez-nous la paix, et du coup, suite à cette demande, eh bien, on va avoir le rite de la paix, avec cette première prière du prêtre. Vous savez, il va dire trois prières après l'Agnus Dei, mais elles ne sont pas à mettre toutes dans le même registre. La première, elle est concentrée sur le rite de la paix. Si bien que quand on ne donne pas la paix à la messe, quand on ne donne pas la paix liturgiquement, à la messe des morts ou le jeudi saint, on saute cette prière et on passe directement à la suivante. Cette prière, c'est Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, c'est la paix que je vous laisse en héritage, c'est ma paix que je vous donne. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez, comme vous l'avez voulu, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. L'idée, là encore, est d'obéir à cette demande du Christ de Matthieu 5, quand tu offres ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Cette paix auquel on fait écho, c'est celle dont parle le Christ dans la grande prière sacerdotale du Jeudi Saint. C'est la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. Donc il y a une paix du Christ qui est autre que la paix du monde. Et ça, il faut bien saisir cette idée-là, que la paix du Christ n'est pas la même que celle du monde. L'unité du Christ n'est pas la même que celle du monde. La paix du monde, c'est l'absence d'opposition, c'est l'absence de difficultés, c'est l'absence de troubles. La paix du Christ, c'est autre chose. C'est la paix intérieure, qui peut d'ailleurs se composer avec des troubles et des difficultés que nous vivons. Je crois qu'il y a tout un thème à développer, que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, sur ce qu'est la paix dans le christianisme. Parce qu'on nous dit souvent, vous les chrétiens, par exemple, lorsque vous affirmez la vérité du Christ, lorsque vous affirmez qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça, en fait, vous troublez notre paix à nous, la paix du monde, vous êtes des troubles faits, et c'est des choses qu'on a entendues hein, lorsque les chrétiens manifestent contre la PMA, contre la GPA, c'est nous qui mettons le bazar, quoi. Et on devrait plutôt laisser les gens tranquilles, les gens faire comme ils le veulent, etc. Eh bien non, la paix du Christ, ce n'est pas une absence de troubles et d'opposition. Hein, c'est cette paix du Christ aussi qui s'associe avec ce que Jésus nous dit, je suis venu apporter un glaive sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive de la vérité aussi. Je suis venu diviser le père contre son fils, l'époux contre sa femme. Enfin, tous ces thèmes-là sont à mettre ensemble pour saisir ce qu'est vraiment la paix chrétienne, à savoir la paix intérieure, la paix, l'absence du péché, et de l'animosité ou de la violence. Mais ça n'empêche pas de rappeler la vérité, par exemple. Saint Augustin a un très beau texte que je vous livre là-dessus, sur la paix. La paix de toute chose est la tranquillité de l'ordre. Hein ? S'il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas y avoir de paix. Une paix dans le désordre, ça n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait un ordre. Et l'ordre, c'est quoi ? Ben, c'est Dieu au-dessus, ensuite l'homme, et c'est l'observance de la loi de Dieu qui est l'ordre, et c'est dans cet ordre-là qu'il y aura une paix. L'ordre est la disposition de chaque chose mise à sa place. La paix, c'est toujours Saint-Augustin, est cette même disposition conservée sans trouble et gardée sans déplacement. Hein, le péché, c'est l'inverse de la paix. C'est le refus de faire les choses selon l'ordre qui est prévu par Dieu. La paix du corps est le sage tempérament de toutes les parties qui la composent. La paix de l'âme est l'accord bien réglé de ses pensées et de ses actions. La paix entre les hommes est la concorde basée sur des mœurs pures et des lois équitables. C'est ça l'ordre. Une paix dans l'ordre. La paix d'une famille, d'une ville, d'un État, de la société tout entière est le juste équilibre du commandement et de l'obéissance entre les membres de la maison, de la cité et du royaume. Foutez-moi la paix, ça n'a rien à voir avec la paix du Christ. L'ordre, au contraire, est la base de la paix. La paix entre les hommes et Dieu consiste dans la soumission à sa loi, réglée par une foi sincère et véritable, toujours saint Augustin. La paix, enfin, de la patrie céleste consiste à posséder Dieu tous ensemble et à jouir d'un mutuel bonheur en Dieu, dans l'union de la société la mieux réglée qui soit. Hein, le ciel sera la société la mieux réglée qui soit, par la parfaite concorde. C'est dans la cité de Dieu, au livre 14. Voilà, bien saisir ce qu'est la paix, ne pas en faire un principe absolu, c'est un principe second, si vous voulez. La paix arrive lorsqu'il y a d'abord l'ordre, et l'ordre de la vérité notamment, de la loi, et du respect de la règle, qui, en termes théologiques, s'appelle la bonne action. Voilà pour ce qui est la paix. Ensuite, passons à la communion, avec ces deux prières que le prêtre va lire pour s'y préparer et qui sont magnifiques. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, accomplissant la volonté du Père dans une œuvre commune avec le Saint-Esprit, on a toute la Trinité là, avait par votre mort donné la vie au monde. Délivrez-moi, par votre corps et votre sang infiniment saints, de tous mes péchés et de tout mal. Faites que je reste toujours attaché à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous, qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Cette demande d'être à la fois attaché au commandement de Dieu et de ne pas se séparer de Jésus. C'est, pour les experts, l'un des seuls passages dans le rite romain où il y a une sorte de petite pointe d'émotion sensible, la plus manifestée. Hein, tout le rite romain est quand même assez sobre. Il dit les choses de manière très, très, très simple, des choses magnifiques, extrêmement profondes, de manière très simple. Et là, il y a cette « ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous » qui est magnifique comme expression et qui est vraiment le désir qui doit nous animer quand on va à la messe, de permettre qu'on ne soit jamais séparé du Christ, et qui fait écho à cette belle prière dans Romains 8, 30, 35, qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ? À cause de toi, on nous met à mort tous les jours, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Et j'ai l'assurance, dit saint Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et si nous ne sommes pas séparés de l'amour de Dieu, eh bien tout va bien. Je crois que c'est la seule demande qui vaille vraiment le coup d'être faite à Dieu, qu'on ne soit jamais séparé de lui. Quand on est avec lui, tout va bien. Quand on n'est plus avec lui, tout va mal. Ça, très émouvant, parce que c'était... on avait un vieux prêtre au séminaire qui avait été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait tenu durant toute sa captivité par cette phrase-là. Et à chaque fois qu'il commençait une conférence pour nous expliquer sa vie, parce qu'il nous parlait souvent de ce qu'il avait vécu, justement, il commençait par ça, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Et il avait vécu cette réalité que, même dans la guerre, même dans l'épreuve, bah, tant qu'on est avec le Christ, ça va bien. C'est vraiment la demande qu'on peut faire avant la communion. Ne jamais être séparé du Christ par le péché. La deuxième prière, « Si j'ose recevoir votre corps malgré mon indignité, Seigneur Jésus-Christ, que cela n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par votre miséricorde, que cela me serve de sauvegarde et de remède pour l'âme et pour le corps. » Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Cette deuxième prière d'avant la communion fait écho à ce qu'on trouve chez saint Paul, 1 Corinthiens 11. Le fait de manger indignement. Que cela, que communier n'entraîne pas pour moi condamnation. Ça peut sembler étrange. Parce que communier, bah, c'est plutôt être uni, c'est plutôt une grâce. Maintenant, communier peut aussi entraîner pour nous condamnation. Il faut en être conscient. C'est dans saint Paul. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Voilà ce qu'il y a derrière cette prière, cet examen. Est-ce que je peux véritablement manger le pain et boire la coupe ? Que celui qui mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. C'est vraiment important ce thème-là, surtout aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que communier est devenu un acte automatique quand on va à la messe, ce qui n'est pas vrai. Hein. Pour communier, il faut certaines conditions, il faut un certain état de notre âme, on en avait parlé, une communion en état de péché mortel, ça veut dire le cœur séparé de Dieu, c'est pas du tout une union avec Dieu, c'est un nouveau péché qu'on fait, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège parce que on pose un signe et on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est séparé de lui. C'est pour ça que la tradition de l'Église demande à ce qu'il y ait certaines conditions pour communier, notamment ne pas avoir de péché mortel non confessé sur la conscience. C'est très important, et il faut le rappeler, la communion n'est pas quelque chose d'automatique parce qu'on est allé à la messe. C'est autre chose qui demande une attitude intérieure extrêmement importante de désir et d'amour de Dieu. Si on a mal assisté à la messe, si on ne se sent pas prêt, si on ne se sent pas l'âme en état de grâce, eh ben on ne va pas communier. Et on essaie d'abord de se réconcilier avec Dieu pour ensuite communier. C'est le pain des vivants, l'Eucharistie. On avait déjà parlé de tout ça. Donc c'est une prière aussi importante avant la communion. Ensuite, voilà, bon, le prêtre prend l'Eucharistie et récite cette prière. « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie », qui est la parole du centurion, une parole d'humilité et de confiance à la fois. D'humilité, je ne suis pas digne, mais de confiance, je crois que vous allez me guérir. On a juste remplacé maison, serviteur, que mon serviteur sera guéri, que par âme, que mon âme sera guérie. Puis le prêtre se communie au corps et ensuite au sang. Et cela nous amène à la communion des fidèles, qui sera la dernière partie de notre exposé. La communion, j'en ai pas parlé ça quand même, il faut que je le dise, fait partie du rite de la messe. Elle est même obligatoire pour le prêtre. Un prêtre n'a pas le droit de célébrer la messe sans communier. Hein, ce serait grave, une faute grave. Si bien même que si le prêtre mourait après la consécration, après avoir consacré les saintes espèces, un autre prêtre devrait venir pour communier au corps et au sang. C'est indispensable pour l'intégrité du sacrifice. On va essayer de voir pourquoi. Et la tradition nous dit même, saint Thomas en tête, mais aussi les pères de l'Église, que le Christ lui-même a communié. Alors ça paraît un peu mystérieux. Ce n'est pas dit franchement ou expliqué très clairement dans les évangiles, sauf cette expression « je ne mangerai plus, je ne boirai plus de la coupe jusqu'à... à la Pâque céleste », mais qui, bon, on ne sait pas exactement trop ce que ça veut dire, mais que le Christ aurait communié, ça c'est la tradition qui le dit, pour manifester cette unité entre nous et lui, et le rôle du prêtre, puisqu'il est prêtre, de communier à la victime. C'est ça qu'il faut bien saisir dans la communion. On insiste beaucoup sur la communion comme union avec Jésus, et c'est très vrai. Hein, c'est central même, c'est tout ce qu'on a vu la première partie du trimestre, le premier trimestre, des effets de la communion comme union avec Jésus présent tout entier dans l'hostie. Mais il y a ce deuxième aspect de la communion qui est essentiel, on communie à l'hostie. Hostie, ça veut dire victime. On communie à la victime du sacrifice. Hein, pas simplement à Jésus présent dans l'hostie, mais à Jésus présenté sacramentellement comme victime du sacrifice de la messe. Et donc, communier, c'est s'unir à la victime. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, dans les sacrifices de communion ou dans les sacrifices pour les péchés, une partie de la victime était consommée par le prêtre et dans certains cas aussi par les fidèles. Ça a deux symboles, et ça, il faut y penser quand on communie. Hein. Le premier symbole de la communion, c'est, même dans les sacrifices d'Ancien Testament, même dans les sacrifices païens, hein, c'est l'union avec la divinité, la communion avec la divinité, auquel on a offert la victime, on communie à ce qu'on a offert, donc on s'unit avec la divinité, mais on communie aussi à la victime. Ce qui veut dire qu'on ne cherche à ne faire plus qu'un avec la victime qu'on a offert, dans le but, nous aussi, de nous offrir à Dieu. Communier, c'est devenir hostie. Pas simplement devenir Jésus, être divinisé par Jésus, certes c'est le plus important, mais c'est aussi devenir hostie, devenir victime à notre tour. C'est la communion, le symbole le plus fort par lequel je manifeste mon union avec le Saint-Sacrifice de la messe. Je peux le faire intérieurement depuis ma place, à l'offertoire, on en a parlé, mais je le fais de manière sacramentelle encore plus forte, en allant communier à la victime, pour ne faire plus qu'un avec cette victime qu'est Jésus et qui s'offre à Dieu son Père, pour manifester que moi aussi, je m'offre à Dieu le Père avec Jésus et uni à lui. Donc la communion pendant la messe a beaucoup de sens. Hein, parfois et autrefois, pendant une certaine période, on communiait en dehors de la messe, mais on est revenu à la communion pendant la messe, et ça me semble très bon, très important, parce qu'il y a tout un symbole lié au sacrifice dans la communion. Cette communion, je vous l'avais dit avec beaucoup d'insistance, elle se prépare. Hein. L'idée, la préparation à la communion est plus importante que l'action de grâce. Voilà. Théologiquement, la préparation à la communion est plus importante que l'action de grâce. Parce que la préparation à la communion, c'est ça qui va décider de l'efficacité de votre communion. Je vous avais dit, hein, pour communier, il ne faut pas simplement avoir l'état de grâce, il faut avoir le désir de communier. Ce qu'on appelle la ferveur ou la dévotion, qu'il faut chercher à faire grandir le plus possible avant la communion, pour que la communion soit vraiment une rencontre avec Jésus et un effet spirituel et sacramentel en nous. Les communions tièdes, faites sans ferveur, n'ont que très peu d'effet dans notre âme. Et mieux vaut une communion fervente, ça veut dire une communion préparée, que des centaines, des milliers de communions peu ferventes. Qu'une communion peu fervente. Vous voyez, il faut absolument qu'avant la communion, et c'est le but de toute cette partie-là, notre âme se dilate pour être en capacité d'accueillir au maximum l'amour incandescent de Jésus dans l'hostie. Si notre âme reste toute rétrécie, eh bien Jésus n'a pas la place de venir agir en nous. Donc la préparation à la communion est essentielle. Si on sent qu'on n'est pas assez préparé, qu'on n'a pas assez de désir de communier, il faut mieux, à mon avis, parfois, pas aller communier pour que le lendemain, on se dise bah, ouais, j'ai vraiment envie d'aller communier et que la communion soit vraiment efficace et fervente. Plus l'âme dilate sa capacité de réception de l'Eucharistie par l'amour, la dévotion, plus abondamment elle sera abreuvée par l'amour du Christ. C'est pourquoi, dit saint Thomas d'Aquin, pas moi, hein, la préparation à la communion est plus importante même que l'action de grâce. L'action de grâce est importante, certes, hein, attention, on la verra la prochaine fois, mais la préparation, elle est fondamentale. Et la meilleure préparation à la communion, c'est l'assistance à la messe, et c'est d'essayer de suivre ces belles prières que lit le prêtre avant la communion. Hein, c'est d'essayer d'avoir son âme en paix, d'abord. C'est d'essayer d'avoir son âme sans péché, d'avoir cette intention de « je ne veux jamais être séparé de vous », et puis d'essayer de nous unir le maximum dans notre communion. Ça, c'est fondamental, et profiter du missel, parce que bah, parfois les gens, ils vont lire, ils cherchent des prières pour se préparer à communier un peu dans les livres de piété, mais c'est bien, mais en soi, vous avez sous les yeux des prières extraordinaires, de la grande tradition de l'Église, qui sont là pour nous préparer à communier. Donc c'est celle-là qu'il faut utiliser, je crois. Passons maintenant à la partie un peu plus polémique. Le rite de la communion. Comment est-ce qu'on communie ? Autrefois, le diacre, ça ne se fait plus, le diacre, avant la communion, disait « Sancta Sanctis », ça veut dire « les choses saintes pour les saints », c'est-à-dire que pour les pas saints, bah, pas de choses saintes. En gros, si vous voulez communier, bah, il faut que votre âme soit pure. C'est un rappel de cela. Il disait aussi, sinon, « hors d'ici les impies ». Alors ça ne se dit plus, mais c'était pas mal. Hors d'ici les impies, hein, on se rappelle, la sacralité de l'hostie, n'importe qui ne communie pas. Il faut être saint dans notre âme pour pouvoir communier. Et il y avait ce grand respect de l'hostie, il y est toujours bien entendu, pour pouvoir communier. Hors d'ici les impies, j'aurais dire ça de temps en temps, avant la communion, ça serait pas mal. Alors comment communiait-on ? Historiquement, au début, les hommes communiaient dans la main. Ah, voilà, et oui. Au IVe siècle, Cyrille de Jérusalem nous dit « Lorsque tu t'avances, ne marche pas les mains grandes ouvertes devant toi, mais fais de ta main gauche un trône pour la droite, qui doit recevoir le roi. » Si au paquet, là, qui... Ah, oh, il est plein de cœur. Crétin. Lorsque tu t'avances, ne marche pas les mains grandes ouvertes, mais fais de ta main gauche un trône pour la droite qui doit recevoir le roi. » puis recourbe en creux la paume de celle-ci et prend possession du corps du Christ en disant Amen. Alors, avec le plus grand soin, sanctifie tes yeux par le contact du corps sacré et consomme-le, mais prends garde de n'en rien laisser tomber, car ce qui t'échapperait serait comme quelque chose de tes propres membres qui se perdrait. On oublie souvent cette deuxième partie de la phrase sacerdotale de Jérusalem. Ce qui t'échapperait serait comme un de tes propres membres qui se perdrait. Dis-moi, si on t'avait donné de la poudre d'or, combien serais-tu soigneux de la tenir, veillant à ce que rien ne t'échappât ni ne se perdît. Donc, en effet, dans les premiers temps de l'Église, la communion sur la main était le mode ordinaire pour les hommes. Pour les hommes. Mais, déjà, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, les fidèles devaient obligatoirement se laver les mains avant en entrant dans l'Église. Et cette communion dans la main, vous l'avez senti, était liée avec une attention toute particulière à la moindre parcelle, puisque chaque ne rien laisser tomber, la poudre d'or, puisque chacune de ces parcelles, bah, c'est comme notre propre membre. C'est comme si on arrachait notre propre membre, dit Cyril de Jérusalem, si on le laisse tomber. C'est pas rien, ça. Les femmes, elles, ne communiaient pas directement sur les mains. Ah, et non. Elles communiaient sur un linge appelé le dominical, posé sur leurs mains, et c'est l'origine de la nappe de communion. Donc vous voyez déjà, pour essayer d'être un peu précis, le rite de communion des premiers siècles n'est pas le même que le rite de la communion dans la main qu'on a aujourd'hui. Si on voulait être vraiment strict, si on voulait vraiment être traditionnel au sens, parce que c'est ça l'idée, il faut revenir au truc qu'on finit au premier temps. D'accord, bah, les femmes ne communient pas comme les hommes, déjà. Voyons si ça passe. Ok ? Bon, ça, c'est une première chose. Et après, ce qui est important quand même, c'est que après le IVe siècle, sous l'influence d'une conscience et d'un respect croissant pour la Sainte Eucharistie, et notamment d'une conception plus poussée de la présence de Jésus dans les parcelles, dans les moindres petites parcelles de l'hostie, ce qui est venu progressivement, avec la théologie en fait, hein, qui s'est demandé est-ce que Jésus est présent uniquement dans le morceau de pain, et quand on le découvre, est-ce qu'il est présent aussi dans les parcelles? Eh bien, sous l'influence d'un respect croissant de la Sainte Eucharistie, la communion sur la langue vient remplacer celle de la main. Tant en Orient qu'en Occident, le rite va évoluer. Et au IXe siècle, la communion sur la langue est établie partout. Ce que je veux vous lire, pour vous aider à réfléchir tout simplement, être conscient du problème en fait, de ce qui s'est passé. C'est le texte qui a autorisé la communion dans la main dans le rite en 1969. Ça s'appelle l'instruction Memoriale Dominum. C'est le seul texte officiel dans lequel la communion dans la main, enfin qui statue sur la communion dans la main. Je vous le lis, mais je pourrais m'arrêter après, parce que je crois vraiment que ce texte parle de lui-même quant à l'abus réel aujourd'hui de la communion dans la main. Ces dernières années, je le défends fermement, hein, j'ai aucune crainte là-dessus, ça me semble vraiment être un grand drame, aujourd'hui la communion dans la main. Il y a une phrase de Mère Teresa, alors je ne sais pas si elle est vraie, donc c'est pour ça que je suis prudent, dans laquelle elle dit, Mère Teresa, que la communion dans la main lui paraît être l'un des plus grands drames liturgiques. Je n'ai pas vu si c'était vrai ou pas. C'est une phrase qu'on sort souvent. Je vous lis l'instruction quand même. Ces dernières années, donc on est en 1969, ces dernières années, la participation plus complète à la célébration eucharistique exprimée par la communion sacramentelle a suscité là et ça et là le désir de revenir à l'usage ancien. C'est clair, on a bien vu, c'est un usage ancien, de déposer le pain eucharistique dans la main du fidèle, lequel se communie lui-même en le portant à la bouche. Il est certes vrai qu'en vertu d'un usage ancien, les fidèles ont pu autrefois recevoir cet aliment divin dans la main et le porter eux-mêmes à la bouche. Il est également vrai que, dans des temps très anciens, ils ont pu emporter le Saint-Sacrement avec eux. Ça vient de Paul VI, hein. Le Saint-Sacrement avec eux. Voilà. Cependant, les prescriptions de l'Église et les textes des pères attestent abondamment le très profond respect et les très grandes précautions qui entouraient la Sainte Eucharistie. Ainsi, que personne ne mange cette chair s'il ne l'a auparavant adorée. Et à quiconque la mange et d'adresser cet avertissement, reçoit ceci en veillant à n'en rien perdre. C'est en effet le corps du Christ. Là, il cite les pères de l'Église, Augustin, saint Cyrille et saint Hippolyte. Par la suite. Et voyez la raison pour laquelle on est passé à la communion sur la langue. Lorsque la vérité et l'efficacité du mystère eucharistique, ainsi que la présence du Christ en lui, ont été plus approfondies, on a mieux ressenti le respect dû à ce très saint sacrement et l'humilité avec laquelle il doit être reçu. Et la coutume s'est établie alors que ce soit le ministre lui-même qui dépose sur la langue du communion une parcelle du pain consacré. C'est bien parce que on a ressenti un respect plus grand qu'on est passé à ce mode et qu'on a supprimé le précédent. Ce que je veux dire, c'est que communier dans la main au 1er siècle, il n'y a aucun problème. C'est le fait d'être revenu dans la communion dans la main, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on l'avait quitté parce qu'on avait pris conscience plus grandement du respect à avoir entre les uns des espèces. Ce n'est pas le fait lui-même que je condamne. C'est le fait d'avoir changé, d'avoir voulu revenir à une pratique plus ancienne. Pour moi, c'est problématique dans la mesure où on avait mis en place la communion sur la langue par respect plus grand pour l'hostie. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça risque d'être interprété en tout cas comme une diminution du respect envers l'hostie, ou une baisse, et que ça peut engendrer chez les gens le motif pour lequel on était passé à la communion sur la langue, finalement, n'est pas si important, puisqu'on la supprimerait. Et donc, le respect dû à l'hostie, il n'est pas si important. Vous voyez comment la logique se met en place. Ce n'est pas le fait lui-même, la communion dans la main. C'est le changement que je ne comprends pas. D'ailleurs, là, si je continue à lire cette encyclique, enfin, cette instruction, qui a quand même une certaine force, compte tenu de la situation actuelle de l'Église dans le monde entier, vous allez voir, hein, cette façon de distribuer la Sainte Communion doit être conservée. Hein, le seul texte qui parle de la communion dans la main nous dit... La communion sur la langue doit être conservée. Non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie.